idée de modernité est parfois trompeuse. Pendant plusieurs décennies, il est apparu plus moderne d'appliquer aux vignes des traitements chimiques afin de les protéger de toutes attaques extérieures, de maintenir à tout prix des rendements élevés au risque de tuer la biodiversité des sols et appauvrir sur le long terme la matière première fondamentale qu'exploite chaque agriculteur depuis la nuit des temps. Longtemps, il est apparu moderne, une fois la vendange passée du champ au chai, de gommer les effets du millésime par des élevages en fût qui marquent plus ou moins fortement les vins, leur donnant ce profil censé répondre aux attentes du plus grand nombre de consommateurs. Mais les goûts, les attentes du public évoluent en même temps que la philosophie des vigneronnes et des vignerons, qui les porte à proposer des vins plus personnels et authentiques. Aujourd'hui, modernité rime le plus souvent avec retour à des méthodes anciennes, limiter au maximum les traitements et s'interdire ceux issus de la chimie de synthèse, au risque de perdre en rendement, labourer au cheval, vendanger à la main, intervenir le moins possible en cave pour laisser s'exprimer chaque millésime sans maquillage ni artifice. Les vins se dégustent aussi beaucoup plus tôt et la notion de longue garde tend presque à disparaître. Et si être moderne, ce n'était pas tout simplement s'adapter à l'évolution des goûts tout en se tenant à bonne distance des modes? Ce 52e épisode The Dome, la dame de 11h est en avance, bienvenue dans la terre à boire.
Et nous sommes donc ravis, moi je suis ravi d'attaquer enfin une région qui nous tend les bras, qui nous fait un peu peur même, on pourrait dire, depuis le début de cette émission. C'est Bordeaux, le grand Bordeaux, le Bordelais, et heureusement je ne suis pas tout seul pour en parler, je serais bien embêté d'en parler tout seul. Avec moi au micro, Florence Aragoni. Bonjour Florence.
Bonjour.
Bonjour Patrice Defay.
Bonjour.
Et bonjour Laurent Delceau.
Bonjour.
Bordeaux donc, ça y est. On attaque, on a attaqué notre petite montagne qui était la Bourgogne, et on a parlé du Rhône-Nord, et puis là, voilà, le grand domaine de Bordeaux, le phare de la viticulture française, un petit peu pour le monde entier, Saint-Émilion, Grave, Pomerol, Margaux, Pauillac, Sauternes, des marques qui sont mondialement connues. On va essayer de donner d'abord de commencer par donner une petite vision d'ensemble. Quand je dis vision d'ensemble, je me tourne toujours vers Patrice. Patrice, une région, une histoire, des chiffres.
Ah, c'est à moi là, c'est ça. Bordeaux. Alors, que dire de Bordeaux? D'abord, c'est une assez grande région. Ça fait à peu près 117, 118 000 hectares. C'est la première région en termes de pourcentage d'AOC, puisqu'on devait être à 90 ou 95%. À peu près 110 hectares sont en AOC, ce qui est exceptionnel dans le vignoble français. C'est un vignoble qui a une grande histoire, qui a commencé aussi à l'époque de Pline l'Ancien, donc à l'Antiquité, etc. À l'époque, on parlait de la ville de comment on appelait ça déjà? Oui, on appelait ça Bourdigala, voilà, exactement.
Mais pas dans Astérix, celui-là.
Exactement, Bourdigala, et avec donc une histoire très 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 longue, plutôt un vignoble qui s'est construit de manière, c'est un vignoble de marchand, hein, qui s'est construit avec l'export avec l'Angleterre, avec des négociants qui ont petit à petit acheté des terroirs et des territoires, et un vignoble de Bordeaux qui continue à grandir, hein, en termes de surface et de volume. Qui dit vignoble marchand dit qu'on a souvent des grands terroirs, des grands domaines de 30, 50, voire 100, parfois 100 hectares. Donc on est assez peu dans une viticulture de paysans, mais plutôt d'entreprises, de marchands et de négociants. Et après, on a une dominante de rouge quand même à 80%, on doit être à 15% de blanc et 5% de rosé à peu près. Et puis une répartition assez complexe de loin et qui simplifie quand on regarde une carte, puisqu'on a vraiment la rive droite au nord, la rive gauche au sud. Donc on parle là bien sûr de la Gironde, mais on a aussi après la Garonne et bien évidemment aussi la Dordogne qui définissent entre ces deux fleuves l'entre-deux-mers. Au nord, on va avoir le Libournais, le Blayais et au sud, tout ce qui va ressembler à... au Sauternais, entre autres, et puis au terroir de Pessac-Léognan.
Florence, quand on dit Bordeaux, ça t'évoque quoi?
Ah, forcément les grands crus classés, quand même. C'est la référence. C'est les premiers vins mythiques. Tout le monde connaît deux noms, Pétrus, Aubryon, Mission, Margaux. Ça fait partie des premières choses que l'on apprend à l'école hôtelière.
On va évidemment revenir sur toutes ces régions, sur l'aspect commerce aussi qui est très important, et on verra qu'il y a des similarités avec d'autres régions qu'on a déjà traitées, comme la Champagne par exemple, avec un système qui est un peu différent du vignoble plus artisanal avec des petites surfaces comme en Bourgogne par exemple. Là c'est un petit peu différent, tout est plus grand en Bordeaux en termes de surface, en tout cas pour un certain nombre d'exploitants. Laurent, toi Bordeaux, ça t'évoque quoi? Est-ce qu'on t'en demande beaucoup?
Alors, Bordeaux,
au
pour
wine therapy,
moi,
le bar à
moi, ça évoque, on parle de wine therapy, ça tombe bien, parce que je trouve qu'il y a un rapport tout à fait oedipien au bordelais pour la plupart des consommateurs. Souvent, on explore le vin dans beaucoup de familles. Quand on ne vient pas d'une région vinicole ou viticole, on explore le vin avec du Bordeaux. C'est la découverte du vin.
C'est la clé d'entrée un peu.
Souvent, oui, parce qu'effectivement, comme le disait Patrice, c'est la plus grande région en AOP de France. Il y en a à tous les prix. Quelque part, c'est prestigieux et donc les gens ont l'impression, en ouvrant une bouteille de Bordeaux, qu'ils font vraiment plaisir, qu'ils vont sur quelque chose d'assez exceptionnel. Si bien que les repas de famille, traditionnellement, quand on ne vient pas de Bourgogne ou de la Loire, se font autour d'une bouteille de Bordeaux. Et j'ai l'impression, quand je discute avec mes clients, et même mon expérience personnelle, c'est qu'on rejette à un moment donné le Bordeaux. Et il y a beaucoup de Bordeaux bashing en ce moment, je pense qu'on y viendra.
On y reviendra, mais comme on rejette le père en fait, c'est ça?
Comme on rejette le père, ouais. Et il y a des moments où on revient sur le Bordeaux et on a l'impression de rentrer à la maison. On revient chez soi et ça a un côté un peu réconfortant aussi. Moi, je trouve que ça illustre assez bien le rapport de beaucoup de Français, en tout cas, au vin de Bordeaux.
Moi, ça m'évoque quelque chose que tu dis, parce que je viens d'une famille comme celle-là. Pourtant, c'était dans les Côtes-du-Rhône. On buvait tous les jours du Côte-du-Rhône, mais quand c'était un jour de fête, le grand-père apportait une bouteille de Bordeaux de sa cave. C'était un peu le symbole de la bonne bouteille.
Effectivement, un côté oedipien, c'est bien, je trouve ça bien vu. Il y a aussi un côté hyper institutionnel. C'est-à-dire que c'est la garantie du bon produit parce qu'il y a des classements. Mm-hmm. Il y a un côté très... Voilà, quand je prends un Bordeaux, je suis sûr de ce que je vais acheter. Et puis, si je prends un grand cru classé, je suis sûr que ça va être très, très bien. Et puis, si je prends un cru un peu moins placé, je sais que j'aurai un bon rapport qualité-prix.
Et puis, au niveau des étrangers, si vous leur dites « citez-moi un vin », 90% des gens, ils vont vous dire Bordeaux. Ils ne vont pas forcément vous dire une appellation ou quelque chose, ils vont vous dire juste Bordeaux parce que c'est quand même la première des choses à laquelle on pense. On pense vin, on pense France, on pense Bordeaux. C'est, pour les étrangers, c'est...
C'est à peu près de la même puissance que Champagne, quoi, à l'international, hein, je pense.
Très, ouais. Très fort.
Et c'est aussi le vin qui est le plus en affinité avec la plupart des touristes qui visitent, par exemple, le Wine Therapy. Beaucoup, beaucoup de gens me demandent des vins puissants, tanniques et boisés. Et il se trouve que ça colle assez bien avec le profil de certains vins de Bordeaux.
C'est drôle, on y reviendra évidemment, mais ce que ça décrit, après toutes ces émissions qu'on a déjà faites, autour de le goût est en train d'évoluer, on veut moins de vins puissants, on veut moins de vins boisés et tanniques, on cherche des choses légères, buvables. Bordeaux incarne quand même un peu ses standards, un peu, je vais peut-être grossier, mais du passé. Mm-hmm. Mais quand même, pour une clientèle internationale, ça reste ça, le vin.
Ah oui, complètement. Oui. Oui, je pense que...
Notamment américaine, par exemple.
Notamment américaine, évidemment. Oui. Ça, c'est une évidence. La recherche de, souvent, les analogies qu'on me fait, enfin, quand je demande à mes clients de décrire le vin qu'ils aimeraient boire, soit ils me sortent des appellations italiennes ou espagnoles, et souvent des choses, effectivement, qui ont des références très, très, très tanniques et très boisées.
Les fameux super toscans qui sont...
Par exemple.
Parce que là, effectivement, le Bordeaux est très connu à l'international, parce qu'encore une fois, ça a été un vignoble et un vin de marchand, de commerce, et qui a été tout de suite vendu en grande quantité, parce qu'il y a des grandes surfaces, et sur le mode planétaire. C'est le plus connu parce que ça a été le plus vendu partout et en grande quantité. Donc beaucoup de gens connaissent parce qu'ils n'ont plus l'occasion d'en boire. Alors que des Bourgognes, même si c'est planétaire, c'est à des volumes tellement microscopiques que moins de gens connaissent, et en tout cas moins le quidam que le riche marchand ou industriel ou milliardaire. Quoi.
On a posé déjà pas mal de bases là. Commençons par goûter un vin. Laurent, tu es venu, on vient de parler de rouge, tu es venu avec un blanc, plutôt un blanc sec. Présente-nous un petit peu ce vin.
En fait, il me semblait intéressant, effectivement, d'avoir quand même un représentant d'un blanc sec. Et il me semble que l'appellation un peu phare que tout le monde a probablement goûté sur les blancs de Bordeaux, c'est l'Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers, ça sonne comme une appellation assez populaire, assez facile. Et il se trouve que voilà, j'avais un vin blanc qui collait à cette définition-là. J'avais en plus envie de mettre en avant le fait que à Bordeaux, on dit que c'est très difficile de passer en bio et en biodynamie. Et il se trouve que c'est un vin qui est en bio. Enfin, c'est un domaine qui travaille en biodynamie déjà depuis pas mal d'années.
Donc, c'est le domaine.
C'est le Château Ferrand. Ils sont à Saint-Pierre-de-Bat, ou de Batte, je ne sais pas, là, pour le coup.
Alors, Château Ferrand, 2RAN. Hein.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup d'autres Château Ferrand avec des DDT.
Oui, oui.
Là, c'est 2RAN.
Là, quand si on cherche sur Google, on tape Entre-deux-Mers, Château Ferrand, on retrouve très facilement. Donc, on est sur un vin qui est un assemblage assez classique de Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Muscadelle et je crois qu'il y a un peu de Sémillon aussi. Donc on retrouve donc les cépages clés du Bordelais en blanc.
Sauvignon blanc notamment,
ouais,
très présent.
Essentiellement
hein.
les deux principaux, hein, c'est Sauvignon blanc, Sémillon. Après le Sauvignon gris et la Muscadelle sont plutôt en appoint.
Je reviens sur Entre-deux-Mers. Entre-deux-Mers, tu parlais tout à l'heure des deux fleuves.
Oui, c'est entre la Garonne et la Dordogne, en fait. C'est voilà. La partie au sud-est de Bordeaux et puis de Libourne qui se trouve entre ces deux fleuves.
Quand on a une carte sous les yeux, c'est très simple. On a une rive droite, une rive gauche, et entre les deux fleuves,
oui.
C'est donc l'Entre-deux-Mers.
Oui. C'est une région, donc les rivières sont affectées par la marée, en fait. Hein. C'est l'Entre-deux-Mers, c'est aussi parce que la mer a un impact sur le courant des deux rivières jusque là quoi.
Et du coup salinité dans le vin on imagine en tout cas dans
oui,
le sol
et en tout cas une forte affinité avec des produits de la mer en tout cas quand il s'agit de boire un Entre-deux-Mers les accords évidents c'est autour de la mer ouais tout à fait donc je sais pas où vous en êtes sur la dégustation.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin, Florence ? On n'a pas d'huître pour le déguster, mais...
Non, oui, on trouve une belle fraîcheur. Et puis, ce qui peut être un peu dérangeant, c'est les acidités qui parfois sont assez prononcées. Là, ce n'est pas le cas, c'est assez bien équilibré. Et c'est sur le côté sec, fraîche. C'est un peu bête à dire, mais très buvable. Quoi. On en boit un verre, on en fait un deuxième. Non, mais parce que des fois, c'est tellement acide, c'est tellement vif, c'est
oui,
tellement sec.
Je pense que tu fais bien le dire.
Que ça... Et là, c'est pas le cas. C'est sec, c'est vif, mais c'est fin.
Ce que tu décris là, ça me fait penser au mauvais muscadet, moi, le truc très acide qui t'arrache un peu. Là, on retrouve ça dans les Bordeaux. Pas
je pense qu'il y a une image de l'Entre-deux-Mers qui est assez proche de celle du muscadet. Ouais. Parce qu'il y a des Entre-deux-Mers de
mauvaise qualité.
C'est quelque chose qu'on trouve quand même en grande distribution très facilement, l'Entre-deux-Mers. Et bon, on s'imagine bien la façon dont c'est produit.
Truc, donc, on ferme les yeux là, parce que...
Voilà, donc ça fait partie de ces appellations. Il faut aller au-delà des a priori. C'est pour ça que j'aime bien le faire découvrir à l'aveugle. Parce que là, en plus, on est sur un fruit qui est quand même très mûr, je trouve. On a énormément
de
fruits.
C'est très rond, il y a de l'acidité, mais c'est assez rond. Et on retrouve ce qu'on retrouve assez peu, je trouve, à Bordeaux, qui fait qu'un peu son manque peut-être de modernité, c'est le fameux concept de buvabilité. Parce que quand on va dans les blancs à Bordeaux, soit on a du liquoreux, et c'est pas spécialement ce qu'on peut dire buvable, on prend pas du liquoreux spécialement à l'apéro. On va dans les Pessac, c'est vachement bien, mais c'est tout de suite très très, moi je trouve très 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 pétrolé. Donc c'est un peu exigeant, c'est pas pour le, entre guillemets, pour le consommateur moyen. Et là justement, heureusement, on va dire en Entre-deux-Mers, on a quelque chose d'assez, qui serait presque moderne on va dire, parce qu'assez buvable.
C'est très rafraîchissant.
Voilà,
hein.
pas forcément exigeant, et on peut prendre effectivement à l'apéro, ce qui est pas si souvent le cas sur l'ensemble des blancs de Bordeaux, qui sont plutôt des vins d'accord. Je dirais, ou des vins qu'il faut attendre dans le temps.
Voilà. Donc là, c'est un élevage évidemment en cuve inox, hein, donc il y a vraiment que
pas
le fruit,
pas de bois.
Que le fruit, il n'y a pas du tout de bois. On est vraiment sur un vin facile d'apéro, qui n'a pas besoin d'attendre 150 ans pour vieillir non plus.
Quel millésime ?
Bonne question, je crois qu'on est sur 2017. On est maintenant sur 2017.
Bon, ça, c'est pas un vin qui.
Donc, c'est un Entre-deux-Mers au Benauge, qui est une espèce de petite zone au cœur de l'Entre-deux-Mers, hein, c'est au Benauge, c'est une zone encore délimitée au sein de l'AOP.
Combien pour ce vin au Wine Therapy?
Sur place, il est à 20 euros.
1€ la bouteille, et emporté, un peu moins.
Emporté, il est à 12 euros, je crois.
Bon, ça reste très très abordable pour un joli petit vin blanc, effectivement, avec des fruits de mer, avec des huîtres, plein de fraîcheur,
qui, très rafraîchissant. Qui n'a pas les...
Pas du tout lourd.
Les défauts que je peux des fois trouver dans les Sauvignons, hein, puisque moi je ne suis pas un grand fan du Sauvignon. Mm. En tout cas, le côté très végétal du Sauvignon, là on ne l'a pas du tout, et c'est ce qui me plaît dans ce vin.
On n'a pas ce nez de buis, comme on dit quand on est poli, ou ce nez de pipi de chat, comme
exactement,
on dit quand on est moins poli.
Ouais, tout à fait.
C'est fou, hein, parce que ce cépage, et des fois c'est comme ça, c'est très beau et très aromatique, il n'y a pas du tout ça. Et alors des fois, on a tout de suite l'agression olfactive. Mm.
Ouais, donc je pense que c'est un parti pris effectivement des vignerons de récolter quelque chose déjà de mûr, quoi. Mmh. Parce que bon, le côté très végétal, pipi de chat, c'est quand même parce qu'on veut récolter les raisins très tôt, parce qu'on a justement peur,
on a peur de
la pluie, etc., du mildiou, et on va un peu vite en vendange.
Vous avez dit pluie.
Mais là avec leur 35 hectares de vignes, les ferrants, ils font vraiment quelque chose de très 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 sympa, et je trouve que voilà, ça vaut le coup d'en parler. C'est complètement en dehors de l'image qu'on a de Bordeaux, des grands crus, du bois. C'est des gens qui travaillent, donc ouais, comme je disais, en biodynamie, ça c'est important pour moi.
Ça vaut biodynamie en 35 hectares, c'est donc possible.
Oui, tout à fait.
On dit souvent qu'il y a une taille de 10-12 hectares maximum pour...
C'est un challenge, parce que biodynamie, arrête-moi si je me trompe, ça implique qu'on récolte à la main ou pas? On peut mécaniser quand on est bio.
Je suis pas sûr que ça fasse partie du cahier des charges, la récolte manuelle. Je suis pas certain, non.
Effectivement, 35 hectares, c'est...
Oui,
c'est un vrai défi.
C'est du boulot. De toute façon, ça demande beaucoup de travail, ouais, c'est sûr.
On va revenir aussi sur la partie climatique, parce que je relève que vous avez dit pluie, c'est une zone, c'est une région où il pleut quand même beaucoup.
Bon, on est sur le 45e, le fameux 45e qui est censé être la latitude idéale pour faire du vin. Donc, c'est le 45e ouest en France. Donc, on est au bon endroit. Après, on est en climat océanique tempéré, donc on a effectivement beaucoup de pluie, des sols, on va pas faire le détail, mais globalement, c'est quand même des sols argileux, donc ils retiennent la pluie. Donc Bordeaux est aussi un des rares secteurs viticoles dans lequel il faut drainer. Donc on a des creusets depuis des siècles, des systèmes drainants pour évacuer les eaux qui sont retenues par les argiles en sous-sol. C'est le cas chez IKEM, par exemple, avec nos systèmes drainants. Donc là, ils n'ont a priori pas spécialement besoin d'arrosage. Donc, un, on draine les sols, et deux, on a souvent la pression de l'oïdium, comme c'était d'ailleurs le cas en 2018, et le mildiou, plutôt. Donc, on a pas mal de pression liée à cet excès d'eau, qui est d'ailleurs un des arguments des conventionnels pour dire que c'est difficile de faire de la biodynamie à Bordeaux.
On est bien obligé de traiter, regarder tout ce qui pleut.
Exactement.
Voilà pour ce petit blanc qui est, à mon avis, moi, une très belle introduction à ce vignoble. C'est donc un entre-deux-mers du château Ferrand, un assemblage de Sauvignon, blanc, gris, de muscadelle, de sémillon. Voilà, bel exemple de ces vins secs qu'on peut trouver à Bordeaux, qui sont quand même minoritaires, parce que quand tu dis 20% de blanc, 80% de rouge, dans les 20% de blanc, on a les sauternes, donc les liquoreux, on a les vins puissants type Pessac. Et donc, on a un petit peu ces vins...
Globalement, on les trouve quand même beaucoup, je pense, en entre-deux-mers. Il y a bien un nombre de choses dans les graves qui sont assez intéressantes aussi, qui sont à côté de Pessac, sans être en appellation Pessac. Mais globalement, les blancs secs de Bordeaux, ils sont très intéressants sur des prix accessibles plutôt en entre-deux-mers. Sur des prix un peu plus élevés, sans être hyper cher, dans les graves, il y a un certain nombre de choses intéressantes.
Les blancs, c'est bien joli et c'est bien bon. On en boit, mais Bordeaux, c'est surtout des rouges. Et Florence, grâce à toi, nous avons la chance d'avoir au téléphone... un vigneron. Bonjour Vincent Rapin.
Bonjour.
Comment ça va?
ça va, pas de problème.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle donc de Bordeaux ce mois-ci dans la terre à boire. On vient de déguster un vin blanc d'entre-deux-mers.
J'écoutais tout ça.
on n'a pas dit trop de bêtises.
Non, ça va.
Ça va. Vous étiez caché derrière le micro. Vous vous êtes pas retenu. Ah bah tiens, répondez-nous tout de suite à cette question. Est-ce qu'on on a l'obligation de vendanger à la main quand on a dans le cahier des charges bio, biodynamie?
Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Okay. Parce que moi, je ne suis pas... je suis certifié bio, mais pas en biodynamie. Oh. Donc... mais je pense que de toute façon, c'est pas du tout dans l'esprit de la biodynamie. Donc, c'est certifié, ça m'étonnerait que des vrais biodynamistes vendangent à la machine.
À la machine. En bio, en tout cas, on peut vendanger à la machine. Ça, on le savait.
Oui, ça c'est pas interdit. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est un peu borderline quand même.
Florence.
Bah oui, bah moi je vous connais un petit peu, ce qui n'est pas le cas des amis autour de la table et de tous les gens qui nous connaissent. Et donc vous êtes viticulteur depuis les années 2000 à peu près, si ma mémoire est bonne.
Depuis 98.
Depuis 98.
Ah. Une grande année.
Et qu'est-ce que vous faisiez avant de faire du vin ?
Alors, avant de faire du vin, j'étais musicien professionnel. Voilà. Donc, en gros, je me couchais à l'heure où je me lève maintenant.
Vous jouiez de quoi ?
Alors, moi, j'étais bassiste. Enfin, je le suis toujours, mais disons, j'ai moins d'ambition musicale maintenant. Mais voilà, je jouais de la basse, spécialement, plus spécifiquement, tout ce qui était jazz, rhythm and blues, blues, voilà, musique anglo-saxonne, on dirait. Enfin.
Ok. Vous êtes produit dans un groupe
Ouh là là, alors oui, j'avais plein de groupes, j'ai accompagné des gens, enfin c'était la vie du musicien classique avec la course au cachet, enfin voilà, c'était une autre vie, j'ai l'impression que c'était même pas moi maintenant, tellement c'est radicalement différent, mais voilà, c'était la première partie de ma vie, jusqu'à 35 ans à peu près, j'ai fait ça quoi.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de changer aussi radicalement ?
Alors en fait, c'est plusieurs choses. D'abord, quand notre fils avait 3 ans, on a eu des jumelles. Donc en termes d'emploi du temps, c'était très très compliqué. Donc on s'est dit, si on veut que la cellule familiale n'explose pas, il faut trouver une activité plus, enfin, avec beaucoup moins de voyages, etc. Et il s'est trouvé que mon beau-père avait un petit domaine à Saint-Émilion et on est donc parti s'en occuper avec mon épouse.
Donc, voilà. Vous avez commencé par Valmango ou vous avez commencé par la Dame de 11h ?
Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, on a commencé par s'occuper du domaine de mon beau-père, qui s'appelle toujours Château-Ferrand-Lartigue, bien qu'il l'ait revendu. Et à partir de 2000, on a acheté ce petit domaine donc qui s'appelle Domaine de Valmango. Et en 2007, on a commencé la Dame de 11h sur une des parcelles de Ferrand-Lartigue lorsque celui-ci a été revendu, en fait.
Et pour nous donner voilà. Un petit peu une idée de la taille, donc Valmango, c'était combien d'hectares ?
Alors Valmango, c'est monté à 5 hectares, et puis actuellement c'est à peu près 3 hectares. On l'a revendu il y a 2 ans, mais il y a 3 hectares en production. Et alors la Dame de 11h, c'est gigantesque, hein, ça fait 1 hectare 20. Hein. Vous entendez parler de centaines d'hectares tout à l'heure, je suis le contre-exemple bordelais. Quoi.
C'était un petit peu ça l'idée, parce que la moyenne d'une taille d'un domaine bordelais, c'est environ 30 hectares, donc on en est très loin.
Voilà, alors il faut tempérer ça à Saint-Émilion. À Saint-Émilion, la moyenne des exploitations est quand même beaucoup plus petite, je crois qu'elle tourne autour de 8 hectares, en moyenne.
Et pourquoi avoir vendu Valmango ? Parce que comment ça peut être viable d'avoir seulement 1 hectare 2 quand les voisins après, ont des domaines quand même beaucoup plus grands.
Oui, alors c'est sûr. Après, bon, nous, on a revendu Valmango parce qu'on commençait à fatiguer. Hein, les enfants ne voulaient pas reprendre. Donc, on s'est dit, moi, c'est pas à peine d'avoir 2 exploitations qui étaient quand même distantes de 25 km. Hein, donc, c'est pas toujours simple. Et puis, bon, après, on approche de la soixantaine, un petit hectare 2 aux petits oignons, la dentelle. Et puis, on a un bon réseau de vente. On a des gens qui nous soutiennent, comme toi, Florence. Donc, voilà, ça se passe bien. Disons qu'on a une bonne petite un petit réseau sympa qui fait qu'en fait les choses vont tranquillement quoi. Après c'est sûr qu'un hectare 2 c'est pas beaucoup, mais enfin bon, on a la chance que ça soit un hectare 2 à Saint-Émilion quoi.
Voilà. Ah, je pense on met pas ça me semble logique qu'on a plus de temps à consacrer à la vigne quand on a un hectare 2 que quand on est sur 30 hectares. Parce que déjà, ça fait 2 personnes pour un hectare 2. Quand on est sur un domaine de 30 hectares, ça veut dire combien d'employés au domaine. Ça aussi, ça doit beaucoup changer la vision des choses. Vous pouvez...
Oui, bien sûr. Mais après, 30 hectares, j'entendais Laurent qui disait que c'était le Château-Ferrand fait 30 hectares, il est en biodynamie, tout est question de volonté, hein. Il faut mettre les moyens, c'est tout. Voir ce qu'on veut produire au final et puis se donner les moyens de le faire. Après, c'est chacun voit ce qu'il veut faire comme produit final.
Parce que vous faites bio, tout du début jusqu'à la fin, quoi. Vous êtes acteur, il n'y a pas une partie que vous dites, bon, bah, le travail dans la vigne, ça, je vais plus laisser ça à quelqu'un d'autre, ou le travail de la vinif.
Quand j'ai rebondi Valmongo, la personne qui m'accompagnait depuis une quinzaine d'années travaille maintenant pas tout à fait à mi-temps avec moi, donc on se partage les tâches, en fait, un taille, l'autre traite, on est deux à s'occuper par intermittence de chaque action, en fait, parce que mon collaborateur, c'est moi en double, en fait. On s'est formé ensemble, donc on a une confiance totale, donc ça marche comme ça, quoi.
Et donc, justement, comme c'est une reconversion, vous avez fait comment pour vous former?
Ben, j'ai fait en fait une formation sur le tas, hein. C'est-à-dire que pendant quelques années, j'étais pour mon beau-père, j'étais ouvrier de chez, tractoriste, tailleur, j'ai fait tous les postes, et puis à un moment donné, on maîtrise un petit peu chaque chose, et puis on fait ses choix. Et ça a été une des raisons pour laquelle on a acheté Valmongo, c'était pour faire nos choix à nous. Et parce que même si mon beau-père était très ouvert, nous on a voulu tout de suite assez vite supprimer les produits, etc. Et donc aller dans un parcours plus bio que ce qu'il désirait. Donc voilà, c'était surtout avoir notre chose à nous pour pouvoir s'exprimer pleinement, quoi.
Et du coup, Patrice, bonsoir. Est-ce que du coup, vous qui le vivez au quotidien, est-ce que c'est plus dur de faire de la biodynamie à Bordeaux ou pas?
Ben, je dirais que c'est pas l'endroit le plus facile, c'est clair, hein, parce que vous l'avez évoqué plus précédemment, bon, ça pleut pas mal, c'est pas un climat sec comme l'Alsace, par exemple, où ils sont, je crois qu'ils reçoivent deux fois moins d'eau que nous en Alsace. Donc c'est pas facile, mais voilà, c'est pas parce que c'est pas facile que c'est infaisable. Il faut connaître son boulot, il faut être attentif à tout ce qu'on fait, être réactif, etc. Et puis bon, il y a quand même pas mal de gens à Bordeaux qui maintenant prouvent que c'est faisable. Mais après, le problème de Bordeaux, c'est que c'est des grosses machines. Voilà, donc pour que ces grosses machines-là changent leur façon de faire, ça a toujours beaucoup d'inertie, quoi.
Oui, c'est le problème des institutions, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, celui qui est dans les vignes est rarement celui qui est le propriétaire, par exemple, à Bordeaux. Donc les gens sont moins concernés par la bio quand ils sont pas en prise directe avec les produits eux-mêmes, je pense. En Bourgogne, par exemple, c'est quand même beaucoup plus familial dans la Loire. Donc les gens qui traitent sont aussi les gens qui ont les rênes des propriétés. Donc c'est pour ça que je pense que ça avance plus vite.
Ah, moi, je me souviens aussi que quand j'avais été vous voir, vous m'aviez dit, mais voilà, les vignes sont là, c'est le jardin, c'est devant la maison. Oui. Je vois pas pourquoi j'irais mettre des produits chimiques alors que les enfants, ils sont à quelques mètres.
Oui, bien sûr, ça a été une des motivations premières. Hein. C'est-à-dire que bon, bah, les enfants, dès que ça tousse, on est inquiet, on met les ceintures de sécurité. Et puis, en même temps, à 10 mètres de leur chambre, on pulvérise des produits dangereux. Donc, c'est un non-sens, quoi. Donc, tout de suite, j'ai dit, il faut arrêter cette folie de dire aux enfants, n'allez pas dans les vignes, je viens de traiter, c'est dangereux, quoi. Mmh. C'est des choses complètement aberrantes pour moi. Donc, on a tout de suite changé nos pratiques pour vraiment être... disons, on utilise des produits en bio, hein, bien sûr, mais c'est pas des produits agressifs comme la chimie lourde, on dirait, quoi.
C'est vraiment un élément clé qui va même au-delà de la vigne, hein. C'est-à-dire que la distance entre celui qui exploite la terre et le propriétaire de la terre, moins il y a de distance, plus ils se sont concernés par ce qu'il fait. Et ça, on pourrait l'appliquer. La taille des exploitations est toujours la petite taille des exploitations ramène à la raison, et à l'inverse, les exploitations de plus grande taille ouvrent la porte à tous les excès chimie.
Le gars qui fait les comptes dans la banque, qui possède un vignoble, il est à Paris, il n'est pas très concerné par la dangerosité des produits, lui. Hein. C'est ce qu'il voit, c'est en le bilan, combien ça coûte, enfin combien il gagne à la fin, mais disons que c'est sa préoccupation première est rarement la santé, puisqu'il n'est pas concerné en première ligne. Quoi. Enfin, moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui passent en bio, parce que c'est eux qui manipulent, quoi. Donc.
Ça paraît évident. Est-ce que vous avez le sentiment d'être vraiment une exception à Bordeaux, à Saint-Émilion, avoir à la fois un petit domaine et travailler comme ça en bio, en biodynamie?
Disons qu'à Saint-Émilion, les petits domaines ne sont pas rares. Hein. C'est une appellation assez morcelée. Après, bon, c'est vrai qu'en bio, et encore pire en biodynamie, on n'est quand même pas légion. Hein, donc, mais bon, c'est comme ça. Les choses progressent quand même. On voit quand même beaucoup de conversions. On voit quand même d'évoquer les grands crus classés. Là, qui, y en a quand même qui, des noms qui claquent, qui se mettent à...
Ouais, Palmer, Pontécanet, Guiraud, ça, voilà, ça commence à...
Ikem vient de l'annoncer, hein.
Angelus qui l'a annoncé un petit peu plus tôt là, il y a quand même des noms, voilà, des gens qui se lancent dans des parcours disons plus respectueux. Ça prendra du temps hein, pour les raisons qu'on évoquait avant, mais bon, voilà, il faut bien commencer et puis être convaincu. Nous, on essaye de donner à notre petit niveau un exemple comme quoi ça marche surtout quoi. C'est-à-dire que faut pas avoir peur de la bio parce que si on la fait bien, ça marche. Hein, souvent, le problème des gens, c'est qu'ils mettent la faute sur une perte de récolte ou des choses comme ça à la bio. En fait, non, c'est eux qui doivent se remettre en cause parce que c'est comme si vous prenez un virage trop vite, c'est pas la faute de la voiture, c'est la faute du pilote. Quoi. Ben, la bio, c'est souvent ça. Quoi. On a tendance à mettre sur la bio des pertes de récolte ou des ennuis qui sont en fait une mauvaise pratique.
Oui, mais on voit que ça marche parce que là, on est en train de goûter à la dame de 11h, justement, sur un millésime 2015 qu'on a carafé, mais qu'on aurait pu carafer encore un peu plus tôt, quand même.
D'accord.
C'est ce que je me dis. Parce que.
C'est quoi le entre guillemets, l'assemblage du matériel végétal sur la dame de 11h?
Alors, la dame de 11h, il y a 90% de merlot. On est vraiment dans rive droite, hein, donc là c'est le royaume du Merlot, et 10% de Cabernet Franc.
D'accord.
Voilà. Et sur bon 2015, c'est évidemment un millésime très très chaud, très solaire, qui était pas le plus dur millésime à faire en bio, on dirait. Mmh. Voilà.
Parce que justement, on parlait agriculture biologique, agriculture biodynamique. Donc vous, vous êtes certifié agriculture biologique depuis 2009.
Depuis 2012, en fait, on est rentré en certification en 2009.
D'accord.
Donc, on avait déjà des pratiques bio avant. Et puis, en fait, j'ai vu un peu pas mal de gens rentrer dans la bio pour des raisons, je dirais, pas vraiment... Enfin, pour d'autres raisons que la bio en elle-même. Je me suis dit, on va pas laisser la place à ces gens-là. On va demander à se faire certifier parce que... on voit bien toute la grande distribution, tout ça qui s'engouffre maintenant dans le bon plan et donc je pense que se faire certifier c'est primordial.
Les Bordelais sont très heureux d'annoncer que ils ont 60% des domaines qui sont certifiés. Maintenant, quand on creuse un petit peu sur les 60%, ils comptent tout, ils comptent les biodynamiques, ils comptent les biologiques, mais ils comptent aussi les HQE. Donc,
une sorte de sous-bio haute qualité environnementale, c'est ça?
Premier pas vers la bio.
Oui, c'est surtout. Je pense que ça, c'est des labels qui permettent de se donner bonne conscience, quoi. Ouais. Parce que on connaît la nature humaine. Hein, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut et peut dire ce qu'il veut. Le seul label qui est contrôlé, c'est la bio. Voilà. Donc, à partir de là, la bio, c'est contrôlé. Les autres, c'est pas contrôlé. Quoi. Enfin,
et est-ce que justement, ça n'a pas été un petit peu le virage qu'a pris Bordeaux? Puisqu'on a parlé donc, dans les années 2000, c'était pas évident, vous vous lancez dans les années 2000, on entrait en plein dans ce qu'on appelle le Bordeaux bashing, tous les gens qui étaient là, oui, Bordeaux, les prix sont excessifs, tout ça. Est-ce que toutes ces histoires de certification, cette recherche de certification de la part des domaines, c'est pas une façon pour eux d'essayer aussi un petit peu de redorer leur blason?
C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde sent que la demande est de plus en plus forte sur de la part du consommateur. Donc, il faut que chacun se démarque. Donc, la bio, quand on a un grand domaine, ça fait partie des atouts commerciaux maintenant. Hein. Après, je dirais que peu importe pourquoi les mecs s'y mettent à la bio, du moment qu'ils s'y mettent, je dirais que tant mieux, quoi. Tout le monde y gagne.
Tant mieux, donc, ça fait du bien pour la planète.
Oui, voilà.
Alors,
bon.
J'ai envie de poser une question aussi parce que, oui, évidemment, le bio, comme tu viens de le résumer, Flo, c'est, ça fait du bien pour la planète, c'est sûr, mais je crois aussi que ça fait du bien au vin. Est-ce que vous, vous avez vu évoluer entre l'exploitation sur laquelle vous avez démarré, qui, donc, si j'ai bien compris, était en conventionnel, vous avez ensuite démarré cette démarche de conversion. Là, vous êtes plus, même dans une pratique biodynamique. Comment vous analysez, vous, voilà, est-ce que vous avez vu une évolution des sols, une évolution des vins? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ah ben ça a été flagrant. Hein. C'est-à-dire que si on parle du vin lui-même, le résultat, on voit clairement les pH qui baissent, donc les acidités qui remontent, et aussi le taux de sucre qui baisse. C'est-à-dire que nous, par rapport à ce qu'on faisait avant, on a perdu au moins un degré d'alcool, un degré et demi d'alcool. Par rapport à nos pratiques d'avant. Tout ça, pourquoi ? Parce que les plantes fonctionnent mieux, elles sont, donc les raisins sont mûrs plus rapidement, on n'a pas besoin d'attendre que le sucre monte pour vendanger des raisins qui sont goûteux. Donc nous, on a vu clairement le profil des vins changer, hein, ça c'est sûr, en allant vers beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'équilibre, moins de sucre, moins de concentration. Et donc, à ce niveau-là, au niveau du vin, ça a été flagrant. Et au niveau de la vigne, également. Hein. C'est-à-dire que là, nous, dans nos vignes, il y a des fleurs, des plantes, de la faune. Si je peux me permettre, plus c'est bordélique, mieux c'est. Parce que du coup, personne ne peut proliférer, en fait. Chacun trouve son prédateur, chacun trouve quelque chose qui l'équilibre. Et donc, on n'a pas d'infestation. De pucerons, de je ne sais quoi, ou d'araignées rouges. Enfin bon, tout s'équilibre un petit peu naturellement, quoi, maintenant.
Ouais, ça, d'ailleurs, le nom du vin, la Dame de 11h.
Oui, la Dame de 11h, c'est donc une fleur qui s'ouvre à 11h avec le soleil, d'où son nom, évidemment, et qui est de la famille du muguet, en fait. C'est une ornithogale.
Superbe. Tous les jours, à 11h solaire, elle s'ouvre et elle se referme en fin de journée, c'est ça ?
Voilà. Enfin, tous les jours, pendant un petit mois, quoi.
Pas toute l'année.
Le temps d'une nuit, ouais, voilà. En décembre, elle est un peu moins active. Mais voilà, c'est pendant 3 semaines, 1 mois, elle a besoin du soleil pour s'ouvrir et donc c'est son cycle, voilà. C'est une très jolie fleur avec 6 pétales blancs, d'un blanc éclatant, elle est très jolie.
Et donc, vous nous parliez de... Bah, les garçons, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de l'expression du vin ?
Moi, je suis pas un très, très grand fan de Merlot, parce que je trouve qu'il a une...
Comment ça ?
Non, mais c'est le début de la phrase.
Attendez, il va y avoir un mais.
Il y a un mais. Parce qu'effectivement, je trouve de manière générale qu'il a toujours une expression un petit peu fruit confit, capiteuse, confituré, etc. Trop capiteux, quoi. Et là, me semble-t-il, je retrouve plus de tension, plus de structure, plus de fraîcheur. Alors, est-ce que c'est la bio qui amène ça ? Je ne sais pas, je vous crois sur parole. Mais voilà, je trouve une certaine longueur, une certaine acidité. Et voilà, tout simplement, plus de peps et de vivacité que ce que je bois habituellement dans du Merlot.
Et c'est 15.
J'ai bon là ou pas ?
Oui, c'est tout à fait. Alors, il faut savoir, par exemple, que le 2015, nous, on l'a vendangé le 11 septembre, ce qui est quand même très, très tôt, hein, par rapport à,
ouais, c'est tôt,
à Bordeaux. Pourquoi ? Ben, parce que, en fait, grâce à toutes nos pratiques de semis de couverture, de produits bio, etc., tous les moyens qu'on met en œuvre, on s'aperçoit aussi que la date de vendange, on peut la rendre beaucoup plus précoce, tout en ayant des raisins mûrs et apte à faire du bon vin, évidemment. Donc nous, on a décidé de vendanger le 11 septembre 2015 pour garder cette fraîcheur avec des raisins qui étaient, à mon avis, en parfait équilibre. Et si je l'espère, vous le sentez, on gardait du dynamisme et de la fraîcheur, ce qui est deux choses qui sont primordiales pour moi. Quoi. Surtout quand on parle de Merlot, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Donc on est d'accord.
Voilà. Et puis nous aussi, je vous entendais parler tout à l'heure de vin boisé et un peu épais, que je crois que c'est Laurent qui disait que sa clientèle le réclamait. Nous, on fait des élevages qui ne sont plus avec des barriques. On fait des élevages en foudre et en terre cuite italienne. Hein. Donc, on est plus.
Voilà, vous avez devancé ma question.
Oui, sent bien qu'il n'y a pas l'impact du chêne sur la cuvée. Effectivement, quand je parle de mes clients, c'est vraiment mes clients étrangers, hein, mes clients américains en partie.
Bien compris. Ouais.
Sans les stigmatiser, ils sont les bienvenus, eux aussi.
Non. Je les adore, évidemment.
Non, mais c'est intéressant ce mouvement. Vous validez cette idée que voilà, le Bordeaux. J'ai envie de dire que ce vin est un vin moderne, au sens où voilà, vous vous démarquez par un certain nombre de choses, on l'a dit, la taille de l'exploitation, le fait d'être en biodynamie, et même sur le fait de ne pas vouloir marquer vos vins avec le bois, qui est un peu la marque de fabrique du Bordelais.
Alors du Bordelais, oui, mais depuis peu quand même. Hein. Parce que quand moi j'ai goûté des vieux Bordeaux, c'était pas non plus. C'était quand même élevé dans des barriques qui n'étaient pas systématiquement 100% bois neuf, etc. Donc il y a eu toute une tendance, je pense, pendant 30-40 ans.
C'est ça.
Mais finalement, est-ce que les vins qui vont être moins boisés maintenant, comme je fais avec d'autres, bien sûr, sont pas finalement des vins qui sont plus dans le classicisme de Bordeaux que ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Quoi.
Une sorte de dérive, de grande parenthèse, en gros Parker, Michel Roland, tout ce qu'on voit dans Mondo Vino, des vins qui se ressemblent tous parce qu'ils sont boisés avec des fûts neufs.
Les micro-oxygénés.
Oui. Enfin, des vins voilà, qui ont utilisé pas mal de techniques qui sont à la mode, mais je pense que finalement, moins on utilise de techniques, plus on est dans le classicisme. Donc, on est moderne, mais maintenant, on fait figure de moderne, mais finalement, on n'a rien inventé. Hein. On est des vins qui sont bio. Donc, la bio, il y a, dans les années 30, tout le monde était en bio, finalement. Hein.
Ouais, 30, 40, par définition.
Tout le monde était en bio, par définition. Et on met ça dans, finalement, le vin qu'on obtient, on le met dans des contenants qui sont moins impactants, comme il faisait il y a 50 ans. Quoi. Donc, finalement, on est assez classique.
On peut reprendre, désolé, on va faire la phrase de Gary, hein, le renouveau est d'abord un retour aux sources.
Bah ouais. Oui, tout à fait. c'est... Disons qu'après, moi, je... En fait, quand on a un domaine de cette taille, c'est-à-dire, on fait quand même au moins 6000 bouteilles par an. Hein. Attention, on sait que ça déménage. Donc, on ne va pas s'amuser à faire...
C'est autant que le Romanée Conti, c'est bien, c'est un bon référentiel.
Voilà. Oui.
Pas de Bourgogne, là, non enfin,
c'est pas les mêmes prix non plus, mais bon.
Bientôt.
Quand on dit que Bordeaux est cher...
Et juste par rapport à la biodynamie, justement, parce qu'on a interviewé dans cette émission beaucoup de gens qui font de la biodynamie, et la biodynamie, leur grand thème, c'était de dire 98% on le fait dans la vigne, et 2 à 5% on le fait dans la vinification, dans l'élevage. Or, à Bordeaux, non mais c'était ce que nous disaient les gens de Savoie, les gens du Jura, etc. Or à Bordeaux, on travaille beaucoup dans la cave, c'est des vins d'assemblage, c'est beaucoup des constructions les vins bordelais. On veut retrouver, chaque année on veut retrouver Palmer, chaque année on veut retrouver Pontécanet, chaque année on veut retrouver l'identité du terroir. Est-ce que du coup vous travaillez beaucoup dans la partie vinification ou vous laissez faire le mouvement naturel des millésimes et du terroir?
Ça, c'est clair. Moi, j'en fais dans le chai, mieux je me porte. Hein. Mmh. Et donc, pour ne pas en faire dans le chai, il faut en faire beaucoup avant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, je rentre des raisins, comme on disait, avec peu sucré, mais beaucoup de levure, par exemple. Donc, en vinification, j'ai zéro intrant, par un tout petit peu de soufre à l'encuvage. Mais sinon, tout se déroule, naturellement. Nous, on n'intervient pas en vinif, sauf sur les températures. Par exemple, on surveille les températures que ça monte pas trop, que ceci, cela. On fait quelques petits remontages, mais on est vraiment très, très peu interventionniste. Parce que effectivement, je partage tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que 98% du vin, c'est fait dans la vigne. Après, si c'est fait dans le chai...
C'est des béquilles.
Pour moi, c'est qu'il y a un problème dès le départ, quoi. Si on a besoin de rajouter de la poudre de machin ou faire de la soustraction de trucmuche pour rééquilibrer les acides de poète, bon, à un moment donné, c'est pas mon truc, quoi. Après, moi, chacun fait comme il veut, mais nous, franchement, on donne tout ce qu'on a dans les vignes et puis après, dans le chai, ça se passe tout seul. En fait, les vignes se passent toutes seules et on met dans des trucs qui impactent pas trop le goût du vin, qui l'élève, hein, quand même, parce que faut domestiquer un peu tout ça. Mais voilà, nous, c'est relativement simple, hein, notre process. Hein, mais je dirais que pour arriver à être très simple...
C'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail, oui.
Il faut faire ressortir le terroir, parce que vous n'êtes pas si mal placé que ça. Le voisin, ce serait pas Angélus à côté?
Oui, on a notre voisin prestigieux qui se lance dans la bio aussi, d'ailleurs. Non, on n'est pas sur les grands terroirs de Saint-Émilion, genre le plateau calcaire ou les argiles de Saint-Laurent-des-Combes, des choses comme ça. Mais on a un bon terroir qu'on essaye de révéler par des pratiques le plus naturelles possible. Voilà, c'est le vin d'ici, il est fait comme ça, sans artifice. Voilà. Donc c'est notre manière de voir.
Vincent, vous parliez de la date de vendange de 2015. En 2018, En 2018, vous avez vendangé.
On a vendangé le 13.
D'accord. Donc,
parce que 2018, c'était une année très précoce. Sinon, ouais. Le 13, j'exagère, je n'ai plus en tête, mais on a dû vendanger quelque chose comme une semaine après 15, donc c'est 18, 19. Moi, je regarde mes papiers, mais c'était relativement précoce aussi.
Et pas trop de pression du milieu, du coup, chez vous?
Si, comme tout le monde, hein, mais bon, on a géré, hein, comme je dis, c'est un métier, donc vous dire qu'on n'en a pas eu, ça serait mentir, mais bon, qui n'en a pas eu en 2018 voilà, on fait autant de vin en 2018 qu'on en a fait en 2016, par exemple.
Quelles sont vos armes pour lutter contre le mildiou?
Ah ben, le fameux cuivre, hein, que tout le monde... le pauvre, tout le monde les tape dessus. Donc forcément, on a ça. Puis après, on a des huiles essentielles. On a des molécules naturelles. Je veux dire des mots un peu barbares, mais comme la lipoxyline ou la glycine bétaïne, ou qui sont des molécules extraites des végétaux. On travaille avec des algues, bien sûr. On travaille avec des extraits de carapaces, de crustacés. On essaie de multiplier un peu tous les sites pour que, évidemment, toujours travailler avant les problèmes, parce que en bio, évidemment, quand les problèmes sont là, c'est toujours plus difficile puisqu'on n'a pas de produits curatifs, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous parler juste un petit peu de la petite carotte que vous avez fait dans la terre et que votre voisin qui est en conventionnel a bien voulu faire pour faire un comparatif un petit peu des racines de la vigne?
Ah oui, oui, c'est les fosses de... En fait, on a creusé avec un de mes fournisseurs, qui est un produit qui redonne de la vie dans les sols. On a fait deux fosses pédologiques à 20 mètres d'écart, donc un parcours bio depuis quelques années, plus et à côté, donc c'était un parcours entièrement conventionnel, quoi. Et là, c'était deux univers complètement différents, quoi. En termes de faune, en termes de compaction des sols, en termes d'équilibrage des pH, des acidités, du nombre de vers de terre, c'était vraiment flagrant qu'il y avait deux mondes différents, quoi. Donc ça nous a évidemment fait plaisir, puisque on va dans ce sens-là, quoi. Et à ramener un maximum de vie dans les sols pour que la plante se sente le mieux possible.
Je reviens sur ma question sur la date de vendange sur 2018, parce que certaines mauvaises langues me disent que sur Bordeaux, il y a eu tellement de soleil, hein, 2018, année très solaire, ouais. que sur Bordeaux notamment, il y aura beaucoup d'eau dans les vins. C'est sur le millésime 2018, que les vendanges étaient pas assez précoces, beaucoup de sucre, et qu'il va falloir diluer les vins. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors là, j'en sais rien. Hein. Moi, je suis pas dans le chais de mes
des
collègues.
Des uns et des autres.
Des uns et des autres. Je sais pas.
J'espère qu'ils mettront pas d'eau pétillante, hein, parce que.
oui. Moi, j'ai pas d'exemple en tête de personnes qui m'ont confié ça. Hein,
d'accord. Mais c'est pas une pratique. Enfin. C'est quoi?
Par exemple, moi, on m'a dit que le fameux 47, là où tout le monde dit que c'est un vin extraordinaire, et ça montait tellement fort en température pendant les vinifs qu'ils ont balancé des pains de glace dans les cuves, d'après certains anciens. Donc, vous voyez, il y a des pratiques. Avant, il y avait des pratiques qui, finalement, ont fait quand même des vins mythiques. Donc,
si c'est de l'eau minérale, où est le problème?
Ouais. mais là, franchement, j'ai pas eu vent de ça. Hein.
Non. Non, c'est par curiosité. C'était une région, on va dire, différente. C'était évidemment pas une région. Enfin, c'était pas un vigneron du Bordelais qui me disait ça. Mais
c'était un perfide ligérien.
Quelqu'un qui disait qu'effectivement, vu comment ça avait été très, très. C'était monté dans les tours dans leur région à eux. Ils avaient du mal à. Enfin, ils étaient convaincus que dans d'autres régions, ça allait être.
Voilà. Oui, après, je vous dis, nous, on joue sur donc les aspects qu'on a évoqués, donc des moins de sucre, plus d'acidité, des vendanges plus précoces, et on joue aussi sur la surface foliaire pendant la saison, enfin tout ça, quoi. Il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer. Et voilà, nous, on a un 2018 qui est pas à 15 degrés et qui est tout à fait dynamique et vif, quoi. Donc,
si on en croit le 2015, qui était déjà un millésime extrêmement solaire et qu'on est en train de boire, voilà, c'est un peu la preuve, ce vin-là, que Vous êtes capable de tenir des vins voilà, parce que le, enfin, en tension,
ce qui est agréable,
en fraîcheur.
Que j'apprécie toujours avec la dame de 11h, c'est que c'est, si on carafe, ça peut se déguster maintenant. Il y a de la fraîcheur, il y a de la finesse, mais que ça a encore de la matière pour se garder encore quelques années. Parce que ce que l'on dit souvent des vins de Bordeaux qui sont très boisés et très puissants, c'est « Ah bah oui, mais c'est normal !»
Il faut le boire dans 15 ans.
Il faut le boire dans 15 ou 20 ans. Et je peux comprendre qu'un vin ait besoin de vieillir. Bon, là, on est sur 15, donc ça fait quelques années. Mais c'est encore très jeune. Mais de là à se dire que je ne peux pas ouvrir une seule de mes bouteilles de Bordeaux parce qu'il faut attendre au moins 15 ou 20 ans pour que ce soit à peu près correct à boire, c'est quand même...
Oui, alors, moi, je pense que la garde du vin, ça n'a rien à voir avec le boisé, quoi. C'est ailleurs que ça joue. Évidemment, le boisé ramène un goût, mais je suis pas persuadé que ça. Si votre vin, par exemple, si votre vin est insipide et tocard, vous avez beau le boiser à mort, il va pas tenir la distance, quoi. Donc, pour moi, la garde du vin, c'est avant tout avoir des fruits mûrs, garder de l'acidité, vinifier ça en dentelle et en équilibre, et là vous pouvez partir pour plusieurs pour 20 ans, quoi. Mais la quantité de boisage, j'y crois moyen quand même, dans la garde des vins en tout cas.
Ce 2015, on va peut-être finir là-dessus, mais ce 2015, vous jugez qu'il est à boire dès aujourd'hui en le carafant un peu, ou vous lui donneriez quand même encore quelques années? Est-ce que c'est...
Alors ça, c'est moi, je pense que ça dépend vraiment des gens, de leur goût, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les vins très jeunes, donc comme vous le buvez là, c'est quand même assez jeune hein, pour un Bordeaux.
Et c'est déjà très bon, je vous le dis tout de suite.
Merci. Mais voyez ce que je veux dire, ça dépend du goût des personnes qui boivent. Moi, si vous êtes anglais, vous aurez tendance à aimer les vins un peu plus évolués. Si vous êtes un jeune français trentenaire, c'est sûr que c'est plus des vins fruités, tout ça. Donc
ni l'un,
moi,
ni
je
l'autre.
Pense que ça dépend.
il semblerait quand même que le goût général va. On a de moins en moins de patience pour attendre les vins 15-20 ans, et des vins qui sont pas buvables assez rapidement, c'est vrai que c'est un peu moins, je n'ai pas envie de parler
déjà
de mode, mais c'est moins le goût d'aujourd'hui.
Ils ont de moins en moins physiquement la possibilité
Exactement.
De vieillir. Donc déjà cet aspect-là. Et puis je pense qu'on peut trouver une voie médiane, quoi, c'est-à-dire des vins élevés, mais sans trop les élever, pour que on puisse les apprécier dans leur jeunesse et puis qu'ils aient un potentiel de garde. Voilà ce que nous on essaye de faire, quoi.
Oui, je pense que c'est le cas, parce qu'on a c'est très agréable, on sent qu'il y a de l'acidité, que ça va durer, donc on atteint la buvabilité qui a un peu de mal à trouver souvent les Bordeaux, en tout cas les grands classiques en tout cas.
Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est que, comme je disais, on a que 6000 bouteilles, donc on va pas s'amuser à faire un levain pour le goût des Japonais ou de je ne sais qui, quoi. Donc nous, on fait un vin qui nous plaît. Donc nous, l'archétype du vin qui nous plaît, c'est celui-là. On est fan de la Bourgogne, par exemple. Nous, on est fan de la vallée de la Loire. On est né, mon épouse et moi, à Vindorme de Sancerre, donc l'acidité, ça nous fait pas peur. Donc on aime bien ce profil de vin. On fait comme ça nous plaît à nous, et puis on essaye de trouver des gens qui partagent notre goût. Et visiblement, ça marche, puisque vous êtes... Florence vous a amené notre vin à déguster. Donc c'est ça, notre credo. C'est quand on a que 6000 bouteilles, on est plutôt...
Oui, bah c'est des vins d'auteur, quoi, c'est bien. C'est comment
on dit. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas dépendant
vous,
de
vous étiez,
machine,
vous étiez virtuose, et maintenant vous êtes auteur, enfin.
Virtuose, je sais pas. Tiens. Si j'avais vraiment été virtuose, j'aurais pu continuer.
Ah oui, quand même, vous avez fait du jazz, donc il y a une part d'improvisation. Est-ce que allez, finissons plutôt là-dessus. Est-ce que vous faites un parallèle entre... Il y a quand même une dimension créative à faire du vin. Chaque année, c'est renouvelé. Vous apportez quand même quelque chose. Vous allez me dire, c'est surtout de la transpiration dans la vigne. Mais est-ce que vous reconnaissez cette part-là de création?
Il faut une part de sensibilité dans les deux. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune sensibilité, vous allez faire comme le faisait le grand-père ou je ne sais qui, des recettes, etc. Si vous voulez faire un vin un peu plus différent, qui vous ressemble, il faut une sensibilité pour aller toujours choisir les voix qui vont dans ce sens-là, quoi. Je dirais que la musique, c'est un peu pareil, quoi. Si vous n'êtes pas sensible, vous êtes rarement musicien, quoi. C'est le parallèle. Après, c'est deux univers qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Hein.
Comme vous disiez tout à l'heure, vous vous levez maintenant à l'heure où vous vous couchiez
exactement,
dans cette première partie de vie professionnelle.
Ouais. Bah, je crois que le point commun principal, c'est que les deux professions aiment bien picoler quand même.
Allez, bah, ça y est. Elle est toute trouvée, la conclusion. Merci beaucoup, Vincent Rapin.
Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, bonne fin de dégustation et bonne fin d'émission.
Un grand merci. Merci pour ce vin. Bravo pour vos vins.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et ben voilà, encore une belle rencontre à mettre au catalogue des belles rencontres qu'on a pu faire dans la terre à boire. Très sympathique, un musicien vigneron. Vous voulez encore dire un petit mot sur ce vin qui est superbe, Merlot, mais un chouette Merlot, tu voudrais...
Qu'est-ce qu'on mange avec ça, donc, du coup.
Ah oui, allez, les accords.
Je vais dire la question qui fâche, on va
combien ça coûte
tout de suite. Combien ça coûte?
Cher.
Prix caviste, 50 euros. Ouais. Voilà.
Prix caviste, c'est-à-dire le prix que le consommateur va l'acheter chez le caviste.
Le prix que le consommateur va l'acheter
chez le caviste. Le prix auquel le caviste le touche.
Quoi. Voilà, c'est 50 euros à peu près.
Bon.
Voilà. En vente à la BC, c'est 50 euros par exemple. Voilà. C'est déjà un prix, mais c'est un centimillion grand cru. Donc, pour moi, c'est ni pas cher, ni trop cher. Ça vaut son prix.
Et mince, on ne le trouve pas dans les grandes foires au vin de chez Carrefour, c'est ballot. Hein.
Vous ne trouverez pas les 1 hectare 20 dans les grandes foires au vin chez Carrefour.
Ah, mais pourtant, il y a des tellement
déjà,
bonnes affaires.
Il y a déjà pas beaucoup
dans les grandes foires au vin.
De caves dans lesquelles vous allez le trouver sur Paris.
Ça sera surtout un vin de restauration.
Il est très peu distribué chez les cavistes à Paris. Très peu aussi chez les restaurants. Il a un très bon... la personne qui le représente et qui fait goûter ses vins chez les restaurateurs et chez les cavistes parisiens, c'est Olivier de Terre de... Marchand de Soif à Saint-Émilion. Donc on le trouve beaucoup plus facilement sur Saint-Émilion que sur Paris. Voilà. Et donc, on n'a pas fait le point, mais il a une chambre d'hôte. Donc, si vous avez envie de faire un tour à Saint-Émilion, il fait aussi chambre d'hôte et vous verrez les fameux 1 hectare 20
de par la fenêtre.
Le jardin. Et vous pourrez goûter les vins et vous pourrez discuter avec le monsieur qui, comme vous avez pu constater, est quand même très sympa.
Très sympathique, un très joli vin. C'est vrai que, voilà, quand on a. Il y a une logique à cette économie-là. 1 hectare 2, si les bouteilles coûtaient 10 euros, ce serait juste impossible de trouver un équilibre économique. Voilà, mais c'est des grands vins, c'est des vins un peu exceptionnels quand même.
Et donc pour l'accord, mi mineur, mi majeur.
Mi majeur. Moi, je suis pas du tout musicien. Qu'est-ce qu'on mange avec ça?
Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Une jolie viande rouge. Après, c'est pas la peine non plus de faire dans les trucs trop compliqués. Une viande rouge marinée et grillée.
Un bœuf.
Un morceau de viande grillée, tout simplement. Voilà. J'aurais pas fait plus compliqué.
Oui.
Oui, Laurent.
Ce sera mon mot de la fin. Oui.
Oui.
Non, mais pour moi, il suffit à lui-même, quoi. Donc, un morceau de viande rouge et voilà, c'est plaisir.
Ben là, déguster avec juste un peu de charcuterie, c'est quand même très joli. Hein. C'est soyeux, c'est doux.
Et puis, c'est 15, parce que bon, j'ai eu la chance de goûter des millésimes un peu plus anciens, un peu plus solaires aussi. Avec un peu plus de recul, et c'est vrai que c'est encore jeune, mais ça goûte déjà bien.
Voilà pour ce premier tour en Bordeaux avec un blanc de l'Entre-deux-Mers qui était le Château Ferrand, avec un rouge la Dame de 11h en Saint-Émilion Grand Cru. On va continuer à arpenter un petit peu le vignoble de Bordeaux. Et évidemment, on n'en fera pas le tour, mais on a deux autres petites pépites, petite bouteille sympathique à ouvrir dans la prochaine émission de La Terre à Boire. Je vous dis salut, à très vite alors. Salut Laurent.
Bientôt.
Salut Patrice. Salut Florence. Ciao.